France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction. Avec vous, Thomas Cluzel. Rebonjour.
Rebonjour, Marie. Bonjour à toutes et à tous. Quand l'Europe résiste et même tient tête à Donald Trump, les dirigeants de l'UE élaborent en ce moment même leur riposte au chantage économique de Washington sur le Groenland. On détaillera les pistes envisagées, lesquelles d'ailleurs ne font pas nécessairement l'unanimité au sein des 27. L'actualité à l'étranger, c'est également cet accord de cessez-le-feu signé hier entre les forces syriennes et les combattants kurdes. Et puis en France, 49-3. Ou ordonnance, c'est aujourd'hui que Sébastien Lecornu doit trancher. Après avoir concédé un dernier geste en direction du PS pour échapper à la censure, on en parlera notamment avec notre invité aujourd'hui, le constitutionnaliste Benjamin Morel. Enfin, on reviendra sur les révélations de la cellule enquête de Radio France s'agissant du rappel de millions de boîtes de lait infantile de la marque Nestlé. Après une année écoulée au cours de laquelle les Européens auront dû déjà maille à partir avec le tempétueux président américain le plus difficile, reste peut-être malgré tout encore à venir tous les jours ou presque Donald Trump surenchéri dans la moquerie ou la provocation, et à ce titre le projet d'annexion du Groenland constitue probablement la caricature ultime de ce rapport de force. Samedi dernier, le milliardaire républicain s'est lancé dans un nouveau chantage en promettant des droits de douane punitifs aux pays opposés à son projet de conquête, un outil de pression, voire d'extorsion, maintes fois dégainé, et face auquel les Européens, bien loin de se laisser intimider, ont choisi dès hier de réagir en demandant à la Commission d'examiner les différentes ripostes envisageables. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin. Ce matin même, le ministre allemand de l'économie et son homologue français tenaient une conférence de presse pour lister justement, Sébastien, les contre-mesures susceptibles de répondre au chantage de Washington.
Vous voyez, le ton était très ferme, déterminé même. Roland Lescure, le ministre français des partenaires, des amis de 250 ans, dit-il. Lars Klingbeil, son homologue allemand, tempête, lui, face à l'escalade américaine et aux menaces de Donald Trump.
Nous assistons à une nouvelle confrontation cherchée par le président Trump, et nous, les Européens, devons clairement faire comprendre que la limite est atteinte. L'Europe va apporter une réponse claire et unanime. Il ne faut pas attendre que les droits de douane soient imposés pour préparer dès maintenant tous les instruments nécessaires pour pouvoir réagir rapidement. Nous ne nous laisserons pas intimider.
Ces contre-mesures évoquées par Lars Klingbeil, elles sont destinées à renforcer l'Europe, sa souveraineté, pour faire bloc face aux États-Unis. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, met en garde le président américain.
Il faut regarder tous les instruments à notre disposition. L'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, la possibilité de mesures de rétorsion, des tarifs. Vous le savez, ils avaient été préparés par l'Union européenne, ils ont été suspendus pendant 6 mois. Les 6 mois arrivent à échéance début février. Et pourquoi pas l'instrument anti-coercition. Malheureusement, il est possible qu'on puisse être amené à prendre des décisions qui feront du bien à personne.
Roland Lescure dit encore espérer que cet avertissement sera entendu par Donald Trump. Si aucun accord n'est trouvé, l'Union européenne pourrait appliquer des surtaxes aux produits américains importés dès le 6 février.
Merci Sébastien Baer, en direct de Berlin. Alors, dans un monde où la force semble vouloir faire la loi, il est un lieu qui devrait attirer à lui cette semaine les projecteurs du monde entier. C'est le Forum économique de Davos, traditionnel rassemblement annuel des plus puissants justement de ce monde. Et c'est ainsi que les Alpes suisses devraient offrir pour quelques jours une vue imprenable sur la multitude de crises qui secouent aujourd'hui la planète sur fond d'un impérialisme assumé qui va bien au-delà d'ailleurs d'une simple stratégie de conquête territoriale, mais concentre en réalité tous les processus expansionnistes de domination à l'œuvre, et c'est le cas en particulier avec la fortune des milliardaires qui l'an dernier a atteint un nouveau record, 18 300 milliards de richesses cumulées concentrées entre les mains de quelques 3000 super riches. Or, l'accélération de cette accumulation de richesses et ses effets directs sur la démocratie, ce sont là les deux faits marquants de l'année écoulée selon l'ONG Oxfam, qui publie parallèlement son rapport annuel sur les inégalités. Je vous propose d'écouter Cécile Duflo, la présidente d'Oxfam France, pour qui finalement la seule bonne nouvelle viendrait de la prise de conscience aujourd'hui de ce que cette situation est intolérable. On l'écoute.
On prêche pas dans le désert. Il y a quelques années, en fait, on mettait en cause nos chiffres, on expliquait qu'on était partisans, que, en fait, c'était bien le ruissellement, qu'on était jaloux. Enfin, je vous passe tous les arguments vraiment bas du front. Aujourd'hui, on peut plus dire ça, parce que la réalité, maintenant, elle saute au visage. On voit bien ce que ça produit, l'ultra-richesse. Ça produit un accaparement du pouvoir et une mise au service, y compris des médias, de son propre agenda d'accroissement de la richesse. Donc, on doit refuser ça et se dire qu'il n'y a pas de fatalité au règne des super-milliardaires. Comment on peut accepter qu'une infirmière paye en proportion de ses revenus plus d'impôts qu'un milliardaire ? Qu'elle paye aussi plus de droits de succession si elle veut céder 50 000 euros à son neveu que sera taxé un enfant de super milliardaire. C'est injuste et inacceptable. Et ça, ça travaille le corps collectif. Soit on y apporte une réponse politique, soit on prend le risque d'une bascule vers une expression de ce sentiment d'injustice beaucoup plus brutale.
Cécile Duflot, la présidente d'Oxfam France.
En Espagne, le bilan de la tragédie a été réévalué à au moins 39 morts et 123 blessés.
Soit la pire catastrophe ferroviaire dans le pays depuis 2013. Hier après-midi, deux trains à grande vitesse se sont percutés dans le sud du pays. Plus exactement, la collision a eu lieu entre un train et un autre qui avait précédemment déraillé, percutant ainsi la voie adjacente. La cause du sinistre demeure pour l'instant toujours inconnue. L'accident a même été qualifié d'extrêmement étrange par les autorités, comme la plupart des experts. Après deux jours de progression, les forces syriennes dans des territoires longtemps contrôlés par les Kurdes dans le nord et l'est du pays, le président Ahmed al-Shara a annoncé hier un accord prévoyant un cessez-le-feu et l'intégration de leurs combattants au sein de l'État. Un coup dur toutefois pour cette minorité kurde qui avait profité du chaos de la guerre civile pour s'emparer de vastes territoires incluant notamment des champs pétroliers et gaziers et qui ambitionnait surtout de préserver son administration autonome. Les précisions de Marie-Pierre Véraud.
Après Alep, ce sont donc les régions de Deir ez-Zor et Raqqa que les forces kurdes acceptent de voir passer sous contrôle syrien. Damas remet aussi la main sur les champs pétrolifères et gaziers du nord-est, une manne essentielle pour son budget et sur une région fertile en blé. Quant aux prisonniers de Daesh gardés par les combattants kurdes, ils passent désormais sous contrôle des forces de sécurité syriennes. L'administration kurde qui en est chargée intégrera en effet le gouvernement syrien. Les Kurdes récupèrent en échange des droits culturels et linguistiques, ainsi que des postes dans l'armée et le gouvernement pour les forces démocratiques syriennes. L'accord en 14 points scelle la victoire d'Ahmed al-Shara, qui s'impose de plus en plus comme l'homme fort du pays. Les Kurdes n'avaient plus vraiment le choix. Les États-Unis poussaient fortement à un accord. Les deux hommes qui le paraphent, le président syrien al-Shara et le chef des forces kurdes Mazloum Abdi, vont maintenant devoir en faire accepter les termes aux radicaux de leurs camps respectifs.
Et je précise que les deux camps font état encore ce matin de combat malgré donc le cessez-le-feu.
Bientôt la fin d'un interminable marathon budgétaire en France.
Oui, à la veille de la reprise théorique des débats à l'Assemblée, c'est aujourd'hui que Sébastien Lecornu devrait faire savoir quel outil constitutionnel à sa disposition il choisira d'activer pour faire adopter son budget. Deux options s'offrent à lui, l'article 49.3 d'une part qu'il avait pourtant promis d'éviter et puis l'ordonnance budgétaire d'autre part, une procédure en l'occurrence totalement inédite. Une alternative forcément risqué puisque dans les deux cas, le Premier ministre devrait s'exposer à une motion de censure, sauf que Sébastien Lecornu semble lui plutôt confiant puisqu'il devrait a priori obtenir la clémence des socialistes, lesquels se sont montrés satisfaits, Adrien Taufollet, des annonces formulées par le chef du gouvernement.
Sur le moment, je n'y ai pas cru, reconnaît un député socialiste qui a listé attentivement toutes les victoires obtenues vendredi en fin de journée. Sur la partie dépenses, les cases de nos demandes sont objectivement cochées, constate-t-il avec une surprise à demi-feinte, car en réalité, le PS s'attendait à ce que le Premier ministre donne plus de détails sur ce qui a été négocié, notamment en matière de justice fiscale. D'ailleurs, peu de temps après la fin de son allocution, le compte X du Parti socialiste poste la liste des gains point par point. Parmi eux, la hausse de la prime d'activité, la généralisation des repas à 1 euro pour les étudiants, l'abandon des coupes pour les aides au logement. Puis, le grand point numéro 5, plus de justice fiscale. Tiens, 8 milliards d'euros de surtaxes maintenues pour les 400 plus grandes entreprises, réforme du pacte Dutreil pour stopper les abus dans les transmissions d'entreprises et 7 milliards de taxation des revenus improductifs des holdings. Problème, Sébastien Lecornu n'en a pas dit un mot dans ses annonces. Le message est finalement enlevé V2X. On a été trop vite, reconnaît un cadre socialiste, mais c'est bien ce qui a été négocié. Et c'est finalement ce qui a été annoncé avec plus ou moins de précision hier par Sébastien Lecornu. Durant le week-end, le patron du PS, Olivier Faure, et ce matin, celui des députés socialistes, Boris Vallaud, ont parlé de possibilité de non-censure. Le choix sera officialisé demain midi en bureau national, mais en coulisses et dès vendredi soir, la non-censure apparaissait déjà comme une certitude.
Alors même si le flou persiste encore sur la manière dont le gouvernement entend financer toutes ces concessions, il semble bien que le Premier ministre soit résigné à faire payer en partie la facture aux entreprises. Or le fait de placer ainsi les grandes entreprises, notamment en première ligne, représente décidément, Marie Viennot, un énième clou planté dans le cercueil des totems du macronisme.
L'une des mesures emblématiques du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ce fut la baisse de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, passée de 33% à 25%. L'an dernier déjà, les entreprises dégageant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires avaient été mises à contribution, mais cette surtaxe ne devait être que temporaire. La voie l'a pérennisée pour les 300 à 400 plus grandes entreprises françaises, ce qui porte leur taux d'impôt sur les sociétés au-delà de 35%. Dans la lettre que le Premier ministre a envoyée hier aux organisations patronales, Sébastien Lecornu justifie ce choix par, je cite, « la nécessité de réduire le déficit public à 5% du PIB sans casser la cohésion sociale et la croissance. 2026 sera une année de stabilité pour les entreprises françaises moyennes et intermédiaires, défend-il, car les allègements sur les cotisations patronales sont maintenus, tout comme le crédit impôt recherche et les aides à l'apprentissage. Façon de souligner que pour les 4 400 entreprises de taille intermédiaire, les 172 000 PME et les quelques 4 millions d'entreprises de moins de 10 salariés, rien ne va changer. Or, elles représentent les deux tiers de la production française. Ce n'est pas si sûr cependant, car possible que les grandes entreprises exercent la pression qui leur est mise sur leurs sous-traitants. Possible aussi que dans un espace mondial où la compétition fiscale a repris et où le taux d'impôt sur les sociétés dans l'OCDE est de 21%, cette surtaxe conduise les grandes entreprises à ne pas choisir la France quand elles auront des décisions d'investissement à faire. Or, favoriser l'attractivité de la France était aussi l'un des marqueurs de la politique économique d'Emmanuel Macron depuis 2017.
Alors, se dirige-t-on enfin vers l'adoption d'un budget et la fin, ou du moins la suspension temporaire d'une longue crise politique et institutionnelle? Pour le savoir, invité de la rédaction à présent, Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon, Assas. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On devrait donc connaître en fin de journée la nature exacte de l'arme constitutionnelle choisie par Sébastien Lecornu pour tenter de faire adopter son budget, 49.3 ou ordonnance. On connaît assez bien comment fonctionne la première, moins la seconde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont exactement ces ordonnances et pour quelles circonstances est-ce qu'elles ont été prévues dans la Constitution ?
Alors, si on la connaît mal, cette arme, c'est pour une raison simple, c'est qu'on l'a jamais utilisée. Jusqu'à présent, les ordonnances budgétaires n'ont jamais été utilisées sous la Ve République, et c'est une innovation de la Ve République. Ces ordonnances budgétaires, elles permettent au gouvernement, à la suite d'un conseil des ministres, si le Parlement ne s'est pas prononcé, 70 jours après le début de la discussion sur le budget, faire passer son texte sans en demander l'aval aux parlementaires et de l'appliquer par voie d'ordonnance. Après quoi, il peut y avoir une motion de censure qui passe, il peut y avoir un gouvernement qui tombe, il peut y avoir même une dissolution. Le budget est quand même appliqué et il reste en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2026. C'est pas un hasard si on l'a jamais utilisé, c'est évidemment très lourd. Le parlementarisme en France est construit sur le contrôle budgétaire depuis la Restauration. Donc ce serait une première et un précédent encombrant.
Alors il y a effectivement cette différence de taille entre ces deux outils constitutionnels que vous venez de rappeler. Avec le 49.3, la censure emporte le gouvernement et le budget, tandis que l'ordonnance permet de doter la France d'un budget même en cas de chute du gouvernement. Aujourd'hui, de nombreux députés affirment que ces ordonnances seraient plus défavorables au Parlement que le 49.3. Pour quelle raison ?
Alors, pour une raison simple, d'abord, c'est que le Parlement n'aurait pas donné son avis, n'aurait pas voté, alors qu'avec le 49.1 à 3, le vote est certes escamoté par la voie d'une motion de censure, mais il s'agit quand même d'un vote. Les parlementaires, s'ils votent la motion de censure, rejettent par là même le budget. Là, c'est pas le cas. Le deuxième élément, c'est que, encore une fois, le conseiliste qui vous dit qu'il connaît les ordonnances, il vous ment. On n'a aucun précédent. Néanmoins, on considère, après notamment une note du secrétaire général du gouvernement, que le texte qui serait appliqué par voie d'ordonnance c'est le texte originel, le budget Bayrou, en fait, qui a été déposé à l'Assemblée au mois d'octobre. Et donc, à partir de là, ça serait une version non amendée parlementaire, par les parlementaires, une version qui ne serait clairement pas une version de compromis, là où le 49.3 permet d'intégrer des amendements et de construire le compromis.
Est-ce que les difficultés rencontrées depuis maintenant quelques années déjà pour adopter un budget sont de nature, selon vous, à démontrer au fond que la procédure législative par laquelle on construit ce budget est en elle-même peut-être caduque ?
Alors, on a une procédure législative, une procédure budgétaire qui est en effet assez surannée. On a fait paraître avec Clément Beaune une note sur ce sujet au commissariat au plan. On a d'abord une procédure qui est engluée dans ce qu'on appelle l'annualité budgétaire. On n'arrive pas à se projeter au-delà d'une année. Par ailleurs, on n'a pas les instruments d'expertise, de construction de l'expertise en amont qui permet de vraiment de réfléchir le budget. Prenez des questions qui se sont posées lors de cet examen. La question du chiffrage de la taxe Zucman ou la question du chiffrage de la taxe sur les multinationales, la réalité c'est qu'on a des versions extrêmement divergentes parce qu'on n'a pas travaillé assez en amont avec des autorités indépendantes pour pouvoir évaluer vraiment la portée des votes sur ces dispositifs. C'est parmi ces éléments-là qu'il faut arriver à bouger.
Ah, effectivement, parmi ces pistes de réforme auxquelles vous avez réfléchi avec le Clément Beaune, il y a l'idée de construire des lois pluriannuelles et puis l'idée aussi de fusionner l'élaboration du budget de la sécurité sociale avec celui de l'État. Pour quelle raison ?
Si vous prenez ce qui vient de se passer là, qu'est-ce qui s'est passé sur le PLFSS ? En fait, pour équilibrer à peu près les comptes et en même temps pour faire plaisir à tout le monde, on a transféré plusieurs milliards du PLFSS au PLF en disant l'important c'est de trouver un compromis sur le PLFSS et pour ce qu'on n'arrive pas à trouver, eh bien, l'État y pourvoira, sous-entendu, on trouvera ça au moment du PLF. Comprenez bien que ça rend encore plus difficile après l'adoption d'un PLF. Donc pour avoir une vision globale des comptes de la nation, pour avoir une vision qui soit une vision, je dirais, plus saine de la construction budgétaire qui, en fait, englobe les sujets relatifs à la sécurité sociale comme au budget de l'État, un texte unique apparaît quand même beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui, apparaît à donner beaucoup plus de visibilité.
C'est bien compris. Merci Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Des analyses sont en cours sur des lots de lait infantile Nestlé, rappelés depuis le début du mois de janvier.
Oui, jamais dans son histoire, le géant suisse de l'alimentation n'avait connu un retrait de produits en magasin aussi massif, des millions de boîtes au total dans une soixantaine de pays, dont la France. C'est ce que révèle aujourd'hui la cellule investigation de Radio France, un rappel intervenu après plusieurs signalements de parents rapportant des symptômes inquiétants sur leur bébé. Alors, le groupe, lui, maintient qu'aucun cas de bébé malade n'a été confirmé. Sauf qu'en France, Marie Dupin, des enquêtes sont bel et bien en cours pour établir un éventuel lien entre les pots de lait incriminés et des bébés tombés malades.
Oui, d'après nos informations, de nombreux signalements remontent aux autorités sanitaires pour des bébés ayant développé des symptômes après avoir consommé du lait contaminé par une toxine, comme le petit garçon de Lucie, âgé de seulement 2 mois et hospitalisé 5 jours fin décembre.
Pendant l'hospitalisation, de la fièvre, des vomissements. Plus d'une semaine après, on avait toujours des diarrhées. Donc j'ai vérifié toutes les boîtes de lait et sur toutes mes boîtes, il y en a 3 qui sont concernées par le rappel.
Problème, Lucie veut désormais faire analyser les pots de lait qu'elle a conservés pour établir un lien avec la toxine incriminée. Mais selon nos informations, en France, un seul laboratoire au sein de l'Agence nationale de sécurité sanitaire est en mesure de tester cette toxine et les particules ne peuvent pas saisir directement le laboratoire.
Mon fils est tombé gravement malade et quand du coup je demande aux autorités de santé de tester le lait, on me dit que ce n'est pas possible. Je me sens pas aidée du tout par les autorités de santé, quoi.
De son côté, le ministère de la Santé assure que des analyses sont en cours pour certaines poudres de lait Gigose ou Nidal, susceptibles d'avoir entraîné des symptômes graves chez des enfants et même le décès d'un nourrisson, dont les causes de la mort sont en cours d'investigation.
Allez, je précise que tous les détails de cette enquête de la cellule d'investigation de Radio France sont à retrouver sur le site de la chaîne. L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a subi une opération sérieuse, mais il est de retour à son domicile en convalescence. C'est ce que vient d'expliquer son entourage. L'ancien responsable socialiste, candidat malheureux aux élections présidentielles de 1995 et 2002, n'a pas souhaité en revanche divulguer de détails sur la nature et la cause exacte de cette opération. Enfin, la grève a été reconduite ce matin au musée du Louvre, depuis le début de la mobilisation d'une partie de ses salariés pour de meilleures conditions de travail. C'est la troisième fois que le musée le plus visité au monde gardera donc ses portes closes. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Humide sur la plupart des régions, seul le centre et le nord-est devraient rester à l'écart de cette nouvelle perturbation. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Amalrey à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.